carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Anne de Châteaubien, conservateur du musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie. C'est vous qui avez mis en œuvre le nouveau musée, qui était pourtant un musée ancien, avec une nouvelle présentation, une nouvelle architecture. Et ce musée, je disais qu'il était ancien. Dans le fond, on a mis combien de temps pour avoir un musée? La Légion d'honneur date de 1802.
Et le musée de 1925. Mais il y avait un vrai projet muséal avant, puisque dès 1910, on trouve des projets de musée à l'intérieur de l'institution qui était franchement désireuse de mettre en avant son patrimoine à la fois historique et exemplaire. Le musée, par rapport aux autres musées de société, effectivement, a une double mission. Il veut être un reliquaire des gloires des légionnaires et il veut aussi raconter tout simplement l'histoire des ordres de décoration, tant en France qu'à l'étranger. C'est donc un programme assez ambitieux et qui a vu le jour en 1925 après la coupure de la guerre de 14 et que nous avons essayé de reprendre en respectant l'esprit à l'occasion du bicentenaire de la Légion d'honneur. J'ai effectivement eu la grande chance qu'on me confie la rénovation du musée. Pour un conservateur, c'est absolument un rêve de pouvoir concevoir le musée de demain. Et aussi une grande responsabilité, parce que le musée a beaucoup de charme et on a toujours des scrupules à bouger des lieux qui ont une âme.
Je dois dire que c'est particulièrement réussi, c'est aéré, les vitrines, avec un système de tiroirs, ce qui permet, en dessous de la vitrine, de pouvoir compléter sa vision. Mais c'est un musée davantage historique.
C'est un musée d'histoire, mais c'est aussi un musée de société. Et franchement, on tient beaucoup à cette dimension-là. Alors, les tiroirs, c'est une coquetterie. C'est vrai que c'était mon rêve, le tiroir. Ça fonctionne, donc je suis très contente d'avoir eu finalement raison. Mais le but, en fait, était de modifier la présentation, parce que le musée, quand il a ouvert en 1925, devant, il y avait une gare, la gare d'Orsay. Maintenant, la gare d'Orsay est devenue un musée. Donc, notre public a été modifié, puisque maintenant, sur ces bords de Seine, de la rive gauche, on est un carrefour où le grand public et les touristes passent. Donc, peuvent rentrer. Ils étaient un peu effrayés par un amoncellement, parfois poussiéreux, il faut bien le dire, mais extrêmement savant de décorations et de documents. Donc on a essayé de clarifier tout cela et les tiroirs nous ont aidés justement à présenter toute la collection pour les spécialistes, pour notre ancien public, et à préserver une présentation beaucoup plus claire et beaucoup plus dynamique pour un grand public.
Mais faut-il être spécialiste pour le voir? Vous parlez de grand public, mais pour eux, la décoration, qu'est-ce que c'est qu'une décoration? Bien souvent, on dit la Légion d'honneur ou les autres.
On dit une médaille. Je me bats contre cette appellation qui, pour nous, est fausse. C'est vrai qu'on est un peu victime de notre image, parce que beaucoup de Parisiens, même de Parisiens, ne comptons pas les touristes, s'attendent à voir au musée que des Légions d'honneur. En fait, ils sont très agréablement surpris quand ils ont franchi les portes, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi que le musée soit gratuit. Parce qu'en fait, l'ambition est beaucoup plus large. Et donc, notre histoire commence avec les grands ordres issus des croisades, l'ordre de Malte, pour arriver jusqu'à aujourd'hui en traversant les 5 continents. Donc, c'est vrai que c'est à la fois un voyage dans l'histoire, dans l'espace et dans le temps.
Il n'y a pas uniquement que des insignes, il y a également des tableaux, il y a aussi des panneaux.
Des tableaux et on essaie d'ailleurs, dans la mesure du possible, de faire répondre aux insignes placés dans une vitrine un tableau qui montre l'insigne en situation. Et puis, il y a aussi ces fameux rebonds sur les nouveaux médias qui permettent de rendre au musée ce véritable fil rouge, et le mot est bien choisi, pour faire vivre. Parce qu'en fait, les décorations ont un aspect et une valeur et sont des témoignages, mais elles ont surtout une signification quand on le sait pourquoi elles ont été portées et les actes des personnes qui ont eu le privilège de les recevoir parce qu'ils étaient exemplaires par leur mérite, par leur service, pour mille raisons. Donc on a comme ça choisi certains personnages emblématiques et on raconte leur histoire sur des écrans. Donc, en se servant des nouveaux médias. Et cela donne au parcours quelque chose de beaucoup plus dynamique, surtout pour les enfants.
Parce que certains nombres d'insignes, en France, les insignes ne sont pas nominatifs, contrairement en Grande-Bretagne. Et je me souviens d'avoir vu dans les vitrines, par exemple, la croix de chevalier de Jean-Claude Killy, ou d'autres personnages, donc, ou même du chevalier d'Éon, la croix de Saint-Louis, pas la Légion d'honneur, bien sûr, mais la croix de Saint-Louis. Donc, il y a tout d'un coup, on dépasse l'insigne pour avoir l'histoire des personnes.
Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'en France, les seules médailles, là, ce sont vraiment des médailles nominatives, ce sont les médailles d'honneur. Et raconter. Et puis nos armes d'honneur, qui sont les ancêtres de la Légion d'honneur, et qui donnaient effectivement le nom du titulaire et pourquoi il avait reçu sa décoration. C'est vrai que les Britanniques ont gardé cette tradition qui donne une épaisseur beaucoup plus humaine à l'insigne. C'est surtout vrai pour les décorations gagnées à titre militaire. Mais en France, non, rien ne distingue la Légion d'honneur de Killy de celle d'un soldat en Afghanistan. Mais derrière, l'homme est différent et donc il est important et intéressant de savoir que l'un et l'autre ont bien servi la France.
Quelle est la pièce la plus importante, à votre avis, qui se trouve dans votre musée?
Oh, voilà un choix difficile, surtout pour moi qui ne dois pas être un juge très objectif. Je pense que la pièce la plus importante au niveau de la symbolique, c'est bien sûr le collier du grand maître, puisque le musée abrite le collier de la Légion d'honneur qui est le symbole du grand maître et qui, à chaque élection, va à l'Élysée pour être présenté au grand maître de la Légion d'honneur qui est le président de la République.
Parce que le collier est unique. Il n'y en a qu'un seul, enfin compte, il y en a plusieurs, parce qu'il y a, eu celui de Bonaparte, celui de Napoléon, ensuite celui de la Troisième République, mais on en a fabriqué un troisième, car le nom des présidents de la République sont inscrits au dos, et il n'y avait plus de place.
Voilà, la Troisième République, parce que c'est à elle que revient cette initiative, a voulu que le président de la République, grand maître de l'ordre, soit doté d'un insigne spécifique, qui soit un collier, on a alors décidé de graver au revers des maillons du collier, maillons fort symboliques puisqu'il raconte les activités de la nation, tant militaire que civile. Il y en a beaucoup plus de civils que de militaires, ça c'est pour faire taire la mauvaise l'idée très fausse selon laquelle la Légion d'honneur est militaire avant d'être civile. Et donc au revers des maillons est gravé le nom du grand maître. Et donc celui de la Troisième République effectivement un jour a été gravé entièrement au revers. Et en 1953, le musée de la Légion d'honneur a décidé de créer un nouveau collier pour Vincent Auriol, à qui on avait présenté le précédent, mais sans pouvoir graver son nom derrière. Et depuis, donc, le collier est abrité dans nos murs.
Oui. C'est un collier qui a été réalisé par un artiste Sub
et Arbus, donc un ferronnier d'art et un décorateur de ces années-là, et qui ont su créer un bijou extrêmement masculin, bon, très marqué par son temps, mais avec une symbolique très renouvelée par rapport au grand ancêtre qui était le collier de Napoléon, fait par Biennet, mais qui avait toujours cette symbolique donc des activités de la nation symbolisées sur chaque maillon, sur chacun des 16 maillons, 16 en fonction des 16 cohortes, qui est le chiffre symbolique de la Légion d'honneur.
Mais est-ce qu'on retrouve aussi une origine plus ancienne avec le collier du Saint-Esprit, dans lequel il y avait également des maillons, avec une autre symbolique?
Alors, c'était plutôt des symboliques héraldiques. Le collier du Saint-Esprit va... Tous les colliers d'ordre ont plus surtout des symboliques héraldiques. Le collier de la Légion d'honneur est vraiment un des rares exemples qui est cette symbolique beaucoup plus proche de la fonction de la décoration, puisque la Légion d'honneur est vraiment destinée à récompenser un mérite au service de la nation. Alors, sous l'Empire, Napoléon a créé ce collier pour lui, pour ses frères et les grands dignitaires, mais il n'était pas officiel parce qu'il ne voulait pas justement être taxé de retomber dans les défauts de l'Ancien Régime. Donc le collier n'est devenu franchement officiel que sous la Troisième République et réservé au seul grand maître. En tout cas pour la Légion d'honneur, hein, oui. Parce que dans les ordres étrangers, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses.
Oui, précisons qu'il n'y a pas de collier de l'ordre du mérite, qu'il n'y a pas de collier de la médaille militaire, que c'est vraiment l'objet absolument unique. Et vous disiez à l'instant que tous les colliers dans les ordres étrangers, d'abord, ne sont pas uniques.
Il existe très souvent dans les ordres étrangers un grade dit au collier, grand croix de collier, qui donne droit au port d'un collier. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que notre président de la République, en visite officielle à l'extérieur, reçoive des colliers d'ordre.
C'est le cas, par exemple, vous parliez de l'ordre de Malte tout à l'heure. L'ordre de Malte, qui est un ordre religieux, ce qu'on appelle une décoration, est en fait un insigne d'appartenance. Et l'ordre de Malte dispose d'une décoration de mérite. et d'un collier réservé au chef d'État.
Absolument, et ça c'est très intéressant. Et d'ailleurs au musée aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir exposer les deux types de colliers de l'ordre du Malte, celui qui est l'insigne d'appartenance du grand maître de Malte et celui de le grade le plus élevé de l'ordre pro merito militensi qui est donné au chef d'État.
Donc, dans le fond, une dignité diplomatique.
Tout à fait.
Mais parmi les anciens objets, j'ai remarqué dans une vitrine un petit objet qui paraît tout simple, qui était un disin, donc un chapelet, un disin qui aurait appartenu à Henri III.
Oui, c'est le disin dont la tête de mort est une tête de mort et il est en or émaillé, donc d'une très grande qualité. Il est de l'époque d'Henri III. Bon, l'appartenance est peut-être un peu optimiste, mais il correspond tout à fait à ce goût d'Henri III qui avait des manteaux brodés de tête de mort. Enfin, donc on retombe dans toutes les danses macabres, enfin dans tout cet esprit cher au XVIe siècle. Cela dit, les chevaliers recevaient le jour de leur où ils étaient créés chevaliers du Saint-Esprit, recevaient un disin, un exemplaire des statuts, leur collier et leur manteau. Il ne faut pas oublier que les ordres alors de chevalerie, on est très loin de la Légion d'honneur qui est un ordre de mérite, les ordres de chevalerie étaient des confréries qui étaient liées au roi par un serment, un nombre limité de chevaliers, pour le Saint-Esprit c'était 100, et qui devaient tous être catholiques et défendre la foi catholique, d'où ce fameux disin qu'ils devaient réciter quotidiennement.
Et il y a une autre partie du musée qui est aussi intéressante de voir plus, c'est la partie étrangère, car ce musée n'est pas uniquement consacré aux récompenses françaises.
Non, et c'est bien une chose passionnante, c'est que le musée, et ça c'est vraiment dès son origine, a voulu s'ouvrir aux ordres dans le monde entier, aux homologues de la Légion d'honneur. Et donc on a une grande salle étrangère qui est pas toujours, on n'est pas exhaustif, hein, on ne va pas s'attendre à trouver tous les ordres de tous les pays, mais qui quand même couvre bien l'histoire des récompenses dans le monde entier.
Ce qui m'a frappé, c'est quand on visite cette salle, c'est la géopolitique. Si on parle, je prends un exemple, il y avait les gros blocs de l'Est, les gros blocs de l'Ouest. Donc on met les États-Unis, mais est-ce qu'on met la Russie en face? Est-ce qu'on met la Grèce à côté dans le même tiroir que Chypre? Ça doit être pas très facile concevoir tout ça.
Non, c'est pas facile parce qu'on respecte quand même un parcours géographique qui est à peu près cohérent, ce qui fait qu'on est amené à faire voisiner des pays qui sont des ennemis héréditaires les uns des autres. Donc, c'est pas toujours facile, c'est vrai. Puis, c'est intéressant de voir, c'est vrai que les décorations sont des outils quand même donnés par un pouvoir en place. Donc, ils reflètent la politique d'un pays à un instant donné. Donc, leur évolution, pour ça, est très, très parlante et on le voit, puisqu'en 91, avec l'effondrement des républiques socialistes, on voit très bien que le système de décoration mis en place dans l'URSS et qui s'était franchement avait été adapté par toutes les périphéries a été abandonné et ces pays-là maintenant ressuscitent des ordres anciens qui étaient auparavant dans ces pays-là. Donc c'est très intéressant comme outil d'observation.
Donc vous pouvez mettre, l'ordre de l'aigle blanc avant la période rouge et le nouvel insigne, ce sont les mêmes?
Pour l'aigle blanc, je ne sais pas, très honnêtement. En tout cas en Russie, les Russes viennent de recréer un ordre de Saint-André, qui est inspiré de l'ordre de Saint-André, qui était le grand ordre impérial russe.
Alors à propos d'un signe d'ordre étranger, vous exposez actuellement une collection assez extraordinaire, la collection Spada, qui est une collection, je ne sais même plus comment le dire, tellement, c'est des choses qui sont extraordinaires. Il y a une toison d'or avec des diamants, il y a l'ordre du Christ brillanté, il y a des insignes qui ont appartenu à des souverains. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur cette collection?
C'est une aventure extraordinaire. Effectivement, Antonio Spada est un des plus grands collectionneurs de décoration dans le monde, parce que beaucoup de collectionneurs de décoration se cristallisent sur un point précis. Lui avait une collection qui embrassait le monde entier, un peu comme d'ailleurs notre musée. Et c'est vrai que quand les musées ont réouvert et que les travaux ont été terminés, il nous a proposé de nous confier les trésors de sa collection. Et c'est probablement le plus beau compliment qu'on pouvait nous faire. Et nous l'avons vécu comme tel. Donc, nous avons organisé cette exposition qui a pris une telle ampleur parce qu'il avait une telle collection que nous avons momentanément transformer notre salle des ordres étrangers en salle des trésors de la collection Spada, qui sont essentiellement donc des ordres étrangers. Et c'est absolument fabuleux parce que M. Spada a toujours privilégié les insignes enrichis de pierreries ou les insignes d'appartenance très très prestigieuses, ou ceux qui étaient tout à fait uniques et particuliers par rapport aux définitions des statuts. Donc on a un fonds extraordinaire, puisque la collection comprend 600 décorations qui couvrent à peu près 100 ordres sur une soixantaine de pays. C'est donc donné l'importance de cet ensemble.
On dépasse l'Europe.
Oui, on dépasse l'Europe. Alors l'Europe a la plus grande partie, parce que quand même l'esprit du monde chevaleresque de décoration est quand même né, n'est pas né en Europe puisqu'il est né en Terre Sainte, mais c'est un esprit purement européen et chrétien et qui s'est élargi au monde entier au XIXe siècle.
Essentiellement, y compris des ordres japonais.
Y compris les ordres japonais. En fait, les orientaux, comme les Africains d'ailleurs, pour exprimer leur reconnaissance à quelqu'un, avaient d'autres moyens. On donnait des bijoux, on donnait des chevaux, on donnait des armes, on donnait des femmes, mais on ne donnait pas des décorations dans les anciens temps. Et ce n'est qu'avec les rencontres des cultures au XIXe siècle qu'ils ont été amenés à créer des décorations pour les échanges diplomatiques. Et ben l'exemple le plus célèbre, c'est que le premier ordre turc a été créé pour Nelson après Aboukir par le sultan.
Donc, en fin de compte, nous avons avec ces insignes, ce que nous disions tout à l'heure, notre histoire, l'histoire des autres, et puis aussi l'histoire de la joaillerie.
Absolument, parce que les insignes sont des bijoux, ce sont des bijoux quasiment pour les hommes, donc c'est un clin d'œil, cela aussi, puisqu'il existe des décorations pour les femmes. Autrefois, certains pays avaient des ordres réservés aux femmes, et la France n'en a jamais, elle, jamais eu. Et puis, il y avait des insignes pour les hommes. Bon, aujourd'hui, bien sûr, avec la parité, les ordres sont donnés indifféremment aux hommes et aux femmes, donc il n'y a plus d'ordre spécifique féminin. Enfin, il en reste encore en Espagne, puisque la reine d'Espagne porte encore l'ordre de Marie-Louise. Enfin, ce sont des choses qui sont restées très exceptionnelles. Et donc, ce sont des insignes qui ont pu être enrichis de bijoux et qui sont de véritables joyaux. Et donc, c'est aussi un très, très joli coup d'œil.
Quelle est la plus belle pièce ?
Alors, la plus spectaculaire sera la toison d'or des Turnentaxi avec cet énorme améthyste enchâssé dans des diamants auquel pend la célèbre toison ramenée par Jason. Mais il y a aussi une autre toison d'or en perles baroques qui est absolument plus ancienne puisqu'elle est du XVIe siècle, qui est un bijou absolument fabuleux, des pendentifs de la jarretière qui sont chacun une véritable œuvre d'art avec une imagination dans l'interprétation par le bijoutier du pendentif réglementaire extraordinaire.
Donc on peut voir cette exposition jusqu'à quelle période ?
Alors on peut la voir jusqu'à, je ne voudrais pas vous dire des bêtises, jusqu'au 15 mars. C'est juste en face du musée d'Orsay, l'accès est libre et c'est vraiment une belle promenade effectivement dans un monde féerique.
Et puis je précise qu'il y a le catalogue du musée et le catalogue de la collection Spada qui sont des véritables ouvrages d'art. Je vous remercie.